question sur l'écran, mais où va le monde? Je ne sais pas si vous ne vous posez pas cette question en écoutant les actualités. Quand vous voyez des bateaux de réfugiés qui se noient dans le Méditerranée, vous voyez des hommes puissants à la tête de pays, mais des hommes qui ne sont pas sages, je ne vous dis pas des noms. Quand vous voyez la disparité entre riches et pauvres, quand vous voyez que la population de l'Afrique va doubler d'ici 2050, et que je pourrais continuer la liste de difficultés en France et dans le monde. Et on se dit, mais où va le monde ? Alors j'ai une bonne nouvelle, je suis en mesure ce matin de vous apporter une réponse définitive à cette question. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, mais parce que ce livre nous dit où va le monde. Et déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 2, on a comme une fresque, comme un tableau qui nous décrit le mouvement du monde, de l'histoire, et nous montre un Dieu souverain sur l'histoire du monde. Je vais lire le psaume une fois et puis on va commencer à le commenter. Si vous avez votre Bible, et c'est toujours une bonne idée d'avoir votre Bible, lisez avec moi le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce psaume est ce qu'on pourrait appeler un psaume prophétique. Nous avons le psalmiste, c'est David, à l'occurrence, nous ne l'apprenons pas ici dans le psaume, mais le Nouveau Testament, quand il commente ce psaume, il dit « Notre Père David a écrit dans le psaume 2 ». Donc, c'est David, l'auteur de ce psaume. Il voit probablement un événement tout proche de lui, peut-être sa propre royauté, et les rois autour qui se rebellent contre lui et contre Dieu, qui était souverain au-dessus de son peuple, sa nation. Mais on sait, donc ça c'est la situation proche, on sait que plus loin, il parle de Christ en croix. Et que plus loin encore, il parle du retour de Christ comme roi. Alors vous allez me dire, mais où est-ce que vous voyez ça dans le psaume et comment est-ce que vous le savez que David parle de ces choses-là? Eh bien, nous avons la chance que ce psaume est lu et commenté par les apôtres. Et c'est un des psaumes qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et quand les apôtres lisent ce psaume, ils voient ces choses-là. Donc, je vais faire la même lecture de ce psaume qu'ont fait les apôtres. Et nous nous référons à quelques reprises au Nouveau Testament. Alors, une des clés de compréhension de ce psaume est de comprendre qu'il y a ici plusieurs orateurs qui interviennent. J'en identifie quatre. Alors, on va utiliser un code couleur. Vous voyez les couleurs? Ce que j'ai mis en noir, on pourrait attribuer à un narrateur. Certains disent l'Esprit Saint, mais appelons-le le narrateur. Ce narrateur parle et puis il introduit différents intervenants. Ce qui est écrit en bleu, ce sont les nations qui parlent et qui réagissent au règne de l'Éternel et de son roi, c'est-à-dire son Messie, le Christ. Ensuite, ce qui est écrit en vert, c'est Dieu le Père lui-même qui parle. Ensuite, ce qui est écrit en rouge, c'est le Fils qui nous parle de quelque chose que le Père lui a dit. Il recite le Père que j'ai mis en vert. Et puis, le narrateur intervient encore à la fin pour nous donner la conclusion du psaume. Alors, nous allons relire le psaume ensemble en faisant attention à ces différents intervenants. Et pour mieux souligner, on va prendre aussi quatre lecteurs. Donc, j'ai besoin de quatre volontaires. Quelqu'un qui veut bien lire le texte en noir, le texte du narrateur. Quelqu'un qui veut bien lire ce que disent les nations, ce que disent les nations en bleu. Quelqu'un qui veut bien lire ce qui est écrit en vert, c'est le Père. Et quelqu'un qui veut lire la phrase en rouge, c'est ce que dit le Fils. Alors, qui veut bien lire le texte du narrateur? Merci beaucoup. Et en bleu, les nations. Ne soyez pas timide. Alors, Guy, il faut être énervé. Hein? Vous êtes en rébellion, on veut l'entendre. Pas un problème, d'accord. Et ce qui est en vert, c'est le Père qui parle. Je sais que c'est impressionnant de lire la voix du Père. Merci beaucoup. Alors, toi par contre, tu réagis contre la rébellion des nations. Tu affirmes ton autorité. Le Fils, le rouge, une phrase. Merci beaucoup. Alors, nous sommes prêts. Je vous laisse commencer.
Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné à fonction.
Arrachons leurs liens et jetons leurs chaînes loin de nous.
Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa pureur.
C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne de sens. Je ne proclamais le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier.
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de peur qui ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui.
Merci beaucoup. Ça nous sera plus facile de comprendre ce psaume aussi si on le divise en petites parties. Quand vous voulez étudier un texte des Écritures, vous pouvez employer la devise « diviser pour régner ». Donc, si vous voulez prendre la main sur un texte, essayez de discerner les différentes parties. Moi, j'en vois quatre. Du verset 1 au verset 3, on pourrait parler du règne du Christ qui est refusé par les nations. J'ai dit 1 à 4, 1 à 3. Ensuite, du verset 4 au verset 6, le règne de Christ sera déclaré, affirmé par le Père, en réaction à la rébellion des nations. Du verset 7 au verset 9, le Père promet de étendre le règne du Fils sur toutes les nations. Et dans les derniers versets, le règne de Christ est proposé aux grands de ce monde, à tous. Et puis, un rappel qu'un jour ce règne sera imposé. Alors prenons d'abord le règne de Christ refusé. Je le relis comme ça, vous aurez lu trois fois ce psaume ce matin. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction, arrachant leurs liens, jetant leurs chaînes loin de nous. Ce texte souligne l'opposition du cœur humain, et donc de chaque être humain, et donc aussi de toutes les nations, au règne de Dieu sur ce monde. C'est une histoire qui est très vieille, qui commence dans le jardin d'Éden, où l'homme refusera l'autorité du Créateur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et c'est toujours pareil. Le cœur de l'homme naturel, non régénéré par le Christ, reste rebelle à l'autorité de Dieu et au règne de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous propose une expérience. Parlez à vos collègues de travail ou vos voisins, peut-être certains membres de votre famille, parlez-leur de Jésus-Christ comme un grand philanthrope humanitaire. Ça ne posera aucun problème en principe. Parlez-leur de Christ comme un grand homme, comme Gandhi ou d'autres prophètes qui sont passés dans l'humanité. Ça ne posera pas de problème. Dites-leur, Jésus-Christ est le roi de l'univers. Il faut que tu plies le genou devant lui, que tu te soumettes à lui, car il doit régner sur toi et dans tous les moindres détails de ta vie. Quelle sera la réaction ? C'est différent d'un coup. Et pourtant, c'est le projet de Dieu de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ et tout cœur humain. Et un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. L'Église primitive a trouvé une grande consolation dans ces paroles. Si vous voulez bien prendre le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 des Actes des Apôtres, je vais commencer à lire au verset 24. Je vous dis d'abord le contexte dans lequel nous tombons ici. Nous sommes dans les premiers jours de l'Église primitive. Les disciples sont peut-être un peu déstabilisés de ce que leur maître Jésus-Christ les a quittés. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont quand même du courage pour annoncer l'Évangile et ils vont proclamer l'Évangile sur les places publiques. Bien sûr, ça va provoquer la réaction, la rébellion des autorités. Et ils vont être amenés devant les autorités, ils sont battus, menacés. Menacés de mort, certainement. Alors, comment réagir? Est-ce qu'on va avoir peur? On va arrêter de témoigner? Non, le psaume 2 va leur donner courage. Je lis à partir du verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père David, ton serviteur. » Donc, juste, je m'arrête pour signaler l'inspiration des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui a écrit ces paroles par la bouche de David. « Mais c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Vous voyez la consolation qui trouve dans ce texte. Leur sauveur a été crucifié, mais ils se disent, mais c'est vrai, ça avait été prophétisé. Et ils n'ont fait que confirmer ce que Dieu avait décidé d'avance. Et donc, cette persécution que nous rencontrons aujourd'hui dans notre témoignage, se disent-ils, c'est aussi dans le plan de Dieu. Et nous avançons tranquillement sous la souveraineté de Dieu. Et ce texte doit nous encourager aussi si nous rencontrons de l'opposition à notre témoignage. Quelle sera la réaction de Dieu contre ces nations qui se liguent ensemble contre lui et son projet? Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il est inquiet? Il rit. Alors, ça peut vous paraître bizarre que Dieu rit. Je vais essayer de vous donner une illustration. Supposons que on annonce à Tony Yoka qu'il va avoir un nouveau concurrent. Est-ce que vous savez qui c'est, Tony Yoka? Champion français, s'il vous plaît. Poids lourd de boxe aux derniers Jeux Olympiques. Champion mondial. Médaille d'or. Poids lourd. Alors on dit, Tony Yoka, grand match vendredi soir, mais on ne te révèle pas encore celui qui monte dans le ring contre toi. Alors Tony Yoka se prépare et monte dans le ring, et là devant lui, il voit Brad Dixon, 60 ans, des muscles comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il sait qu'avec le premier coup, il va m'envoyer par-dessus les cordes. Et Dieu n'est pas inquiet par l'opposition du monde. Est-ce que Dieu s'est inquiété quand Judas a eu la pensée de trahir le Christ? Quand les disciples ont abandonné Jésus dans le jardin de Gethsémani? Quand Pilate s'est lavé les mains, est-ce que Dieu a dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était son plan qui se déroulait dans l'opposition du cœur dur de l'homme. De la même manière, Dieu ne s'inquiète pas aujourd'hui de la déchristianisation de l'Europe ou d'autres phénomènes qui pourraient nous inquiéter. Il est en contrôle de l'univers. Il rit et il dit, c'est moi qui ai établi mon roi. Mon épouse me raconte que un jour, elle se promenait en ville avec son frère. Alors, ils sont plutôt grands dans la famille de mon épouse, et mon beau-frère, il est grand comme moi ou un peu plus, c'est deux fois plus... plus large, baraqué, qui fait un métier physique. Et donc, ils allaient pour traverser une rue sur le passage clouté, et voilà qu'une voiture leur passe devant, presque leur roule sur les pieds sur ce passage clouté. Alors, mon épouse a un caractère un petit peu vif de temps en temps, et elle tape sur le toit de la voiture qui passe devant elle. C'est pour dire combien c'était près. Alors, immédiatement, la voiture s'arrête. Le conducteur qui sort et qui dit, qui c'est qui a fait ça? Et mon beau-frère qui dit, c'est moi, il y a un problème. Il s'est remis dans sa voiture et il est reparti. C'est ce que nous lisons dans ce psaume. C'est moi qui ai établi mon Messie. Il y a un problème. Ce que Dieu décide, il va accomplir. Troisième partie, le règne de Christ étendu. Alors dans cette section, nous sommes introduits au sein d'une conversation qui a eu lieu quelque part dans l'éternité passée, dans l'intimité entre le Père et le Fils. Et nous sommes comme derrière un rideau, cachés, en tendant l'oreille pour voir ce qui s'est dit au sein de la Trinité. C'est magnifique. C'est le Fils qui dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit. » Qu'est-ce que le Père a dit au Fils ? « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Le Père donne deux informations très importantes au Fils, deux informations qui vont l'accompagner tout au long de son ministère ici sur la terre et qui vont le fortifier, moi je crois. Il lui dit d'abord, « Tu es mon Fils. » Et deuxièmement, il lui parlera de l'héritage. Alors certains pourraient être troublés par cette phrase, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Si vous discutez avec des témoins de Jéhovah, par exemple, ils vont vite courir à ce verset pour vous expliquer que Jésus n'a pas existé de toute éternité, mais qu'il a été un jour engendré par le Père, créé comme d'autres êtres, comme des anges ou comme nous-mêmes. Et ça pourrait nous troubler à premier abord. Mais là encore une fois, les apôtres viennent à notre secours et je vais vous donner la lecture de cette phrase qu'en font les apôtres. Nous allons dans Actes au chapitre 13 cette fois-ci. Actes chapitre 13. Nous sommes dans une prédication de l'apôtre Paul ici. Je commence ma lecture au verset 32, Actes 13, 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est-à-dire que pour les apôtres, cette phrase fait référence non à la création supposée de Jésus-Christ, mais à sa résurrection. Alors pourquoi sa résurrection ? Un peu de culture du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, dans l'Antiquité, quand il y avait un nouveau roi, pour asseoir l'autorité de ce roi, au même jour qu'il était couronné comme roi d'un certain pays, il était déclaré aussi fils du dieu de ce pays. Donc en Babylone, il était le fils de Marduk et dans d'autres pays, fils d'un autre dieu. De la même manière, c'est par l'ascension de Jésus-Christ que Dieu va déclarer au monde l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est par sa résurrection que son statut de fils est confirmé. Mais il est nulle question ici de création de Jésus-Christ parce que nous savons que au commencement était la parole. Déjà, au commencement, la parole était de toute éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais cette phrase « Tu es mon Fils » que Jésus a dû entendre dans l'éternité passée quelque part, il l'entend dans son ministère, lors de son baptême. Quand les cieux s'ouvrent et que Dieu dit « Celui-ci est mon Fils » ou lors de la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce n'est pas beau pour un fils d'entendre ça de la part de son père. Le père qui affirme son amour pour son fils et l'autorité du fils, le règne du fils. La deuxième information que le père donne au fils dans ce texte, c'est de lui parler de son héritage. Chaque fils a un héritage. Quel sera l'héritage de ce fils? Eh bien, c'est les nations. C'est le monde entier. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Et là, j'essaie d'imaginer une deuxième conversation qui a peut-être lieu lors de l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a vécu cette vie d'homme où il a eu faim, où il a eu soif, où il a souffert, où il a été fouetté, moqué, craché dessus, crucifié, où il a porté les péchés des hommes rebelles comme vous et moi. Et Dieu va le ressusciter des morts et le faire asseoir à sa droite. Et puis j'imagine ceci, le Père qui dit, « Je suis fier de toi, mon fils. » Quelle sera ta récompense, ton héritage? Et le fils qui dit, « Mais tu me l'as déjà dit, donne-moi les nations. » Et c'est pour ça que Jésus, en quittant les apôtres, leur a dit, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Il se rappelle de cette conversation. « Allez vers toutes les nations et faites des disciples. » C'est pourquoi quand vous témoignez de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son autorité comme Seigneur, ce n'est pas une petite action individuelle connectée du grand plan de Dieu. Vous entrez en plein dans le dessein de Dieu pour l'humanité, en Jésus-Christ, et dans son Église. Je me réjouis de votre projet de vous lancer dans un ministère auprès des étudiants. Tout à l'heure, je vous en parlerai plus. Mais la dernière partie de ce psaume, le règne de Christ proposé et puis le règne de Christ imposé. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qui ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans cette dernière partie, nous découvrons l'intention de l'auteur. Pourquoi a-t-il écrit ce psaume? Pour moi, c'est un psaume d'évangélisation. Il s'adresse aux grands de ce monde, mais à tous. Et il les invite à reconnaître aujourd'hui l'autorité de Dieu et de son Messie. Rendez hommage au Fils d'autres traductions, et c'est plus proche de l'original, disent « embrasser le Fils ». Vous dites « pourquoi embrasser le Fils ?» Je ne comprends pas. C'est une image, dans notre contexte, on pourrait comprendre une image féodale. Vous vous rappelez quand la France était gouvernée par des grands seigneurs et des petits seigneurs un peu partout, chacun son petit royaume. Quand un petit seigneur était menacé, il cherchait la protection d'un seigneur plus grand. Alors il allait rendre visite au seigneur le plus grand. Ils allaient conclure un pacte, une alliance ensemble. Mais le petit seigneur, à un moment donné, il doit se mettre à genoux et embrasser la bague du grand Seigneur pour connaître son autorité. Donc, peut-être un petit message pour nous. Quand nous partageons l'Évangile, s'il vous plaît, ne dites pas à votre ami, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme votre ami, comme ton ami. Et non. Bien sûr, c'est l'ami fidèle et tendre. Mais la conversion, la véritable conversion, c'est quand nous reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Embrassez le Fils. Soumettez-vous à son autorité. Il y a des gens, des fois, ils me disent, oh, ça marche pas la vie chrétienne pour moi. Souvent, je trouve, c'est une confusion dès le départ. On pense que Jésus est un peu à notre service, notre valet céleste, pour arranger tous nos projets, pour que ça marche bien pour nous. Ce n'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Quand on a compris ça, les choses marchent un peu mieux dans la vie chrétienne. Je dois vous interpeller chacun individuellement. Je connais peu de personnes ici. Aujourd'hui, est-ce que chacun d'entre vous, du plus jeune au plus âgé, est-ce que vous avez reconnu l'autorité de Jésus-Christ sur votre vie et de Dieu? Est-ce que vous lui avez confié et vos péchés et votre corps et vos biens et votre avenir, vos rêves, tout pour sa gloire? C'est lui le Seigneur. Voilà le message de ce psaume. Je vais prier encore et puis vous parler très rapidement de notre œuvre. Combien nous te remercions pour ta parole, notre Dieu, et nous te remercions pour cette phrase: heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, je peux témoigner que c'est le bonheur de se confier en toi et de se soumettre à toi. Seigneur, je te prie pour que chaque personne dans cette salle ce matin puisse connaître cette véritable conversion, connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et nous pensons à notre monde qui va à sa perdition. Seigneur, renouvelle notre force, renouvelle notre témoignage, nous te prions, pour que bien d'autres puissent te reconnaître. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ce psaume me fait penser à ce chant, peut-être que vous le connaissez. Viens, ne tarde plus, adore, ne tarde plus, donne ton cœur tel que tu es devant ton Dieu, viens. Un jour, toute langue dira, tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Colin m'a demandé de